des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Mais la job d'un chef, à un moment donné, c'est d'avoir un seul message.
Marie, mon petit.
Quand tu changes de voix tous les 4 heures.
Moi, je trouve ça absolument aberrant.
Steve Fortin.
On n'y va plus avec la compétence, l'excellence. Non, c'est plus ça.
La rencontre.
Mais Steve, je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est exactement ça.
La rencontre. Fortin, mon petit.
Marie, Steve. À combien évaluez-vous la vétusité de nos écoles? Parce que, ben, on est dans des paris. De toute manière, faut pas croire les rapports qui sont officiels et qui sont faits par des professionnels. Et ça doit être parce qu'ils veulent de l'argent. J'ai l'impression d'avoir apporté un entrepreneur pour refaire mon toit. Puis quand il me donne le chiffre de combien ça va coûter, je vais dire, ouais, non, c'est pas vrai, là. Tu sais, il est pas si mauvais que ça, mon toit, là. Mon toit, il est bon. Puis c'est juste pour se faire de l'argent. Est-ce que c'est raisonnable? Je commence avec toi, Marie.
Ben, écoute, tu sais, quand tu as des données qui font pas ton affaire, il y a deux façons de fonctionner. Il y a la première, c'est prendre acte de ces données-là puis te faire un plan d'action pour les améliorer. Puis tu as la deuxième qui est de remettre en question les données. Puis c'est pas mal ce qu'a fait le premier ministre Legault. Tu sais, c'est pas la première fois hein, qui... Je sais pas trop si réfléchi à voix haute. Donc là, finalement, ce qu'il dit, c'est que les données sur la vétusté des écoles, ben c'est faux. Tu sais, c'est pas mal ce qu'il a dit. Tu sais, je comprends qu'il veuille remettre en question. Puis tu dis bon, est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits dans les dernières années? Comment ça se fait que l'indice de vétusté s'améliore pas? Mais tu sais, de là à affirmer que le portrait est faux.
C'est fou.
Basé sur aucune donnée, en plus, comme affirmation. Puis de pointer du doigt les centres de services qui, rappelons-le, ont été mis sur pied par la CAQ. Puis les traiter de, je vais dire de menteurs, parce que j'ai vraiment de la difficulté à trouver un autre mot que ça. Là. Quand il dit il y a de l'enflure, c'est comme si les centres de services appuyaient vraiment fort sur le crayon pour dire les écoles sont tellement mal en point qu'il faut plus d'argent. Puis c'est comme une stratégie pour arriver à ça. Moi, je suis pas sûre que François Legault s'est fait bien des amis dans ces centres de services en allant faire ce genre d'affirmation-là.
Steve, non. Est-ce que le premier ministre réfléchit trop à voix haute?
Ben, on le connaît pour ça. Tu sais, j'ai l'impression que quand ça, ben, dans ce cas-ci, en tout cas, ça fait pas son affaire. On attaque le messager. On dit à Monsieur Jonathan Julien. Donc voilà, je veux que tu revoies ce processus d'évaluation, comme si les gens qui faisaient ce type d'évaluation-là, des entrepreneurs, des gens qui connaissent ça, puis tu sais, il faut avoir collaborer, travailler auprès ou connaître des gens qui sont près de ce processus-là, que ce soit ceux qui réussissent à se qualifier pour faire les évaluations, par exemple, des compagnies de construction ou des évaluateurs, là, par exemple, ou encore au sein des commissions scolaires, parce que après avoir lu ça, j'ai contacté un ami à moi qui a été président d'une commission scolaire en Outaouais, puis je veux dire, tu sais, c'est une job quand même, là, il y a pas beaucoup de monde qui le font. Puis c'est pas simple là, de tu sais c'est troublant un peu cette déclaration là de François Legault parce que c'est comme si on en appelait, c'est comme si on disait ben dans cette course là pour faire inscrire nos écoles dans le PQI, ben on a intérêt à noircir la situation, sauf que ça peut pas fonctionner comme
non.
Ça parce que une fois que les gens arrivent sur place puis regardent l'état des travaux, ben je veux dire il y a des pointages qui sont octroyés puis tu sais, c'est vraiment troublant de puis François Legault le sait ça. Mais ce qui arrive par contre, c'est que dans une MRC comme la mienne en région, quand on est dans les mêmes bâtiments puis que tu t'aperçois que le grand-père est allé dans la même école puis que tu sais on n'a pas changé, il y a eu des rénovations qui ont été faites avec le temps, mais la vétusté, est-ce qu'elle vient aussi de par l'état très âgé de plusieurs des écoles, par exemple, dans une région comme la mienne. Puis on se dit, ben il y a so much qu'on est capable de faire avec cette école-là puis ce bâtiment-là. Mais on ne pourra pas tout rebâtir le parc des écoles en région, puis même à Montréal pour plusieurs. Tu sais, fait que le parc lui-même, là, l'espèce de si on veut, là, d'architecture de toutes les écoles au Québec, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Puis c'est difficile de penser qu'on est capable de réduire ça si on n'investit pas plus dans l'infrastructure.
Mais il ne constitue pas... Tu sais, il me semble que quand François Legault sort publiquement puis il dit « Ah, je suis pas sûre, moi, de la vétusité de nos infrastructures d'éducation », j'ai l'impression que ça crée comme un obstacle supplémentaire dans le sens où non seulement il faut convaincre visiblement le gouvernement que c'est vraiment pas... normal, mais en plus de ça, il faut les convaincre d'investir. On dirait que moi, je pensais qu'on en avait juste une seule étape, celle de les convaincre d'investir. Maintenant, on voit qu'il y en a deux, celle de leur faire prendre conscience du problème.
Je pense que l'objectif, c'est vraiment d'être capable de... Ils veulent des chiffres, là. T'sais, c'est un gouvernement qui... Oui, mais ils veulent des beaux chiffres, pas juste des chiffres.
T'sais, des chiffres qui leur disent qu'ils n'ont pas besoin d'investir.
Voilà. Donc, ils veulent des tableaux de bord qui sont intéressants. Ben non, je pense qu'ils veulent des chiffres qui vont démontrer... qui ont amélioré la situation. C'est sûr que ça les écœure, là, de voir encore le pourcentage de vétusté. Mais Colin, c'est un parc...
On veut 50.
Ça fait pas leur affaire. Donc, tu sais, François Legault, on l'a déjà vu, là, tu sais, on se rappelle la fameuse une de journal où il disait on va remplacer les gens qui pensent pas comme nous. Ben là, c'est la suite de ça, c'est on va remplacer les chiffres qui font pas notre affaire, tu sais. Puis Bernard Drinville, ministre de l'Éducation, qui vient en ajouter, ça ressemble un peu à ton exemple que tu donnais tantôt, Yasmine, quand tu dis ouais, moi, puis tu sais, gros gens comme devant, là, tu sais, il dit moi, je suis rentré dans des écoles qui étaient classées E, puis là, je m'attendais à ce que le toit s'effondre sur moi, puis finalement, c'est vraiment pas si pire. Attends, excuse-moi, là, t'as-tu tes cartes d'entrepreneur, je ne savais pas, ou t'as un bac en génie de la construction, puis je ne savais pas, parce que tes yeux bioniques t'ont peut-être permis de voir qu'il y avait de l'amiante derrière le mur qui est devant toi, ou que tu sais qu'il y a un enjeu d'infrastructure, de structure du bâtiment. De qualité de l'air et compagnie. Donc, tu sais, voir que tu rentres quelque part et tu dis, ouais, non, ça a l'air bien correct puis ça devrait pas être classé. Excuse-moi, peux-tu t'en venir, Bernard, s'il te plaît, à ta job de ministre de l'Éducation?
Il va te dire, lâchez-moi avec la vétusité, là, comme lâchez-moi avec ça, un peu comme lâchez-moi avec les GES. Regardez, là, on est comme une bande d'ingrats qui voyons pas à quel point le gouvernement a investi puis a tellement fait mieux puis on veut pas regarder les améliorations qui se font. Moi, c'est comme ça que je l'entends dans mes oreilles.
En tout cas, il y a une chose, c'est que ils sont beaucoup, beaucoup... on voit ce gouvernement-là veut des résultats puis il aime les tableaux, il aime quand il est capable de présenter les choses de manière tu sais, succincte, facile à comprendre. On avait dit ça, on est rendu là, puis... Dire qu'au Québec, en ce moment, on va être capable, par exemple, de rénover un parc qui est vieillissant comme ça, puis qui a vraiment besoin de beaucoup, beaucoup d'amour, puis dire on va arriver à 50%, c'était peut-être que la bouchée initiale était trop grande à prendre. Puis je le vois par les discussions que j'ai avec les gens qui sont dans les écoles ici dans la MRC, parce que j'en ai eu souvent en entrevue, puis que ce soit les directions d'école et tout. Puis je veux dire, tu sais, c'est un défi tout le temps. Mais c'est un défi ici, c'est un défi ailleurs dans bien des régions. Puis moi, je pense qu'on serait beaucoup mieux, le gouvernement serait beaucoup mieux servi s'il acceptait de donner un portrait juste, puis qu'il s'en remettait finalement aux gens, puis que plutôt que d'être débonnaire ou plutôt que d'être François Legault une fois de temps en temps un peu agacé par les chiffres, le François Legault qui dit ben je prends acte, puis savez-vous quoi, il recule ou prend un pas de côté, ben peut-être que c'était une trop grosse bouchée, puis on comprend ça, puis on va mettre les bouchées doubles. Ça, c'est le genre de François Legault qui réussit à faire généralement un peu plus consensus.
Oui, et maintenant, on a aussi une nouvelle qui est sortie hier en fin de journée, qui est assez importante. Il y a un record démographique qui est en train d'être enregistré. L'immigration aurait permis d'augmenter la population canadienne de plus d'un million de personnes, une augmentation de 2,7%. Et ça, c'est une mesure entre le 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023. Steve, c'est assez... Est-ce qu'il faut voir ça comme une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle?
Ben, premièrement, si on le regarde du point de vue de la capacité d'accueil, de la pression sur les services, du réel impact sur la pénurie de main-d'œuvre, parce que chaque personne qui vient va peut-être occuper un emploi, mais va commander toujours plus de services. En tout cas, moi, j'ai des gros doutes par rapport à ça, mais me vient toujours en tête l'initiative du siècle, le Century Initiative, d'un groupe, d'un think tank là, qui est pro-immigration, qui est très proche du Parti libéral du Canada. Puis ces gens-là ont concocté une espèce de stratégie qui semble plaire aux libéraux et laquelle on met en place, mais de façon beaucoup trop rapide et surtout sans jamais que cela n'ait fait débat dans la population canadienne. Et ce que je vois depuis 24 heures, par exemple au Canada anglais, chez certains commentateurs, et pas tous des commentateurs de droite, on se dit, ben tabarnouche, ça va vite. Puis n'oublions pas une chose, hein. François Legault avait fait un pari, puis il disait, ben nous, on vise une cible de 50 000 par année. Bon, Gabriel Nadeau-Dubois, oh mon Dieu, il disait 80 000, on est à 300 000. Puis c'est insoutenable. Je sais que c'est probablement ponctuel tout ça, mais en ce moment, je veux dire, pour le Québec et pour le Canada, on va trop vite, puis à un moment donné, ben il va y avoir des conséquences. Puis on a vu Doug Ford hier, hein, d'ailleurs, qui disait par rapport au chemin Roxham, parce qu'on va en parler, je vais laisser Marie aussi en glisser un mot, mais qui disait, ben nous, là, déjà, on a des maires de villes qui sont quand même substantielles, on les connaît, comme Niagara Falls, qui disent déjà, après quelques milliers ou quelques centaines, on peut plus imaginer pour le Québec. Donc, ça va trop vite. Puis surtout, ça n'a pas fait l'objet d'un débat public et d'une élection. Tout ça, moi, ça prendrait ça au minimum.
Mais on parle aussi d'une forte augmentation de l'immigration temporaire, pas de l'immigration permanente, donc des travailleurs temporaires qui viennent prêter main forte pour des domaines bien précis, qui peut-être, si à la fin de leur emploi ou la fin d'une certaine période donnée décident de rester, ils vont devenir des immigrants permanents. Mais a-t-on le choix et peut-on faire fi de ces bras et de ce cerveau qui viennent nous aider alors qu'on a une pénurie de main-d'œuvre très, très importante, Marie?
Mais si tu parles spécifiquement des travailleurs temporaires, non, on peut absolument pas s'en passer, pas du tout, du tout. Puis tu sais, on le voit par exemple en agriculture, c'est un besoin plus que nécessaire. Puis tu sais, si je te donne un exemple très concret, au début de la pandémie 2020. Ça a été, moi, j'étais porte-parole, juste au début, j'étais porte-parole justement en agriculture à l'Assemblée nationale. Puis ça a été un des enjeux avec le ministre de l'Agriculture qu'il a fallu qu'on travaille très rapidement, parce que comme les frontières étaient en train de se fermer partout, d'aller chercher, comme il se fait normalement, ces travailleurs-là qui viennent, tu sais, dans les champs notamment, faire les récoltes et tout, c'était un enjeu. Et là, c'était Panicville chez les agriculteurs, puis avec raison. Donc là, il a fallu travailler là-dessus, mais non, s'ils sont pas là, c'est des milliers de récoltes qui se font pas, c'est des milliers d'agriculteurs qui se retrouvent vraiment dans des situations très complexes. Ça, c'est absolument, absolument nécessaire. Puis même, tu sais, il y a encore des enjeux sur la pérennisation de ces travailleurs-là, sur leur accueil. Mais bien sûr qu'on en a besoin, puis c'est souvent du travail aussi, moi, pour en avoir discuté souvent avec eux. Tu sais, c'est du travail que malheureusement ils ont de la difficulté à recruter des travailleurs québécois pour faire ce travail-là.
Absolument.
Ouais, c'est du travail qui est extrêmement dur. Puis tout le monde est un peu gagnant là-dedans, parce que pour les travailleurs justement étrangers qui viennent passer un été ici, c'est une rémunération qui est super intéressante pour eux. C'est des conditions qui sont intéressantes de façon générale aussi. Mais non, on peut pas s'en passer, absolument pas. Là.
Parlons de ce député. Moi, je trouve que l'histoire est fascinante. Là. Je sais pas si c'est pour vous, mais j'ai l'impression de lire un roman policier de l'ingérence de la Chine sur les élections canadiennes. Puis là, on apprenait hier, dans le coup de 17-18 heures, que Global News avait deux informations, deux sources anonymes du renseignement canadien, c'est important de le noter, qui soutiennent que le député de Don Valley North, Han Dong, le même qui était déjà visé par des suspicions quant à ses liens avec le régime chinois, ben il aurait eu des communications avec le consul chinois lui disant que ben valait mieux retarder la libération des deux Michael, parce que une libération précipitée pourrait aider le Parti conservateur. Il a dû démissionner séance tenante hier du caucus libéral. Il a pas il s'est pas retiré comme député là, mais plus que au caucus libéral. Est-ce qu'il devrait tout simplement partir, parce qu'aujourd'hui, ben c'est un peu malaisant de l'avoir à la Chambre des communes. Je commence avec toi, Steve.
Non, il n'y a pas à partir. Il y a le droit à la présomption d'innocence. Premièrement, par rapport au travail de Global, il faut faire une distinction, puis on est dans le domaine des médias, nous savons ça, mais il faut le répéter tout le temps, entre sources anonymes et sources dont on connaît l'identité, mais dont il faut taire l'identité. Puis, manifestement, il y a des gens au SCRS qui ont le goût ou qui trouvent qu'ils ont intérêt à parler. Peut-être que dans certains cas, on va dire que c'est même des lanceurs d'alerte parce qu'ils ont peut-être essayé par des canaux conventionnels, puis ça bouge pas. Puis là, ben, on est forcé de faire ça. On avait vu ça aussi dans le cas de la commission Charbonneau. Il y a des gens qui avaient décidé de parler aux médias pour essayer de faire avancer des enquêtes dont ils trouvaient qu'elles n'avançaient pas assez vite. Maintenant, j'invite les gens, ça se trouve assez facilement, là, sur tous les réseaux sociaux. La très bonne émission Power and Politics de CBC, sur le réseau Twitter, par exemple, ça dure 4 minutes 28 à 9h30 quelques hier soir. Anne Dong se lève, il n'y a plus grand monde qui sont là, mais les gens qui ont été là, quand on écoute son plaidoyer, puis c'est un plaidoyer, c'est littéralement ça, il s'explique, puis il dit, ben non, c'est pas ça, puis à la fin, ben il dit qu'il va protéger sa famille parce qu'il est sous le feu, là, depuis... Il fait partie des 11 députés dont on dit qu'ils sont d'origine sino-canadienne qui ont été visés par le régime chinois. Donc, ça doit pas être facile. Toutefois, il y a une chose qui est certaine là-dedans, c'est qu'il n'a pas averti le bureau du premier ministre alors qu'il est allé voir le consul. Au mieux, là, c'est vraiment une très, très grosse gaffe. Puis au pire, si ça s'avère, ben là, vraiment, là, on est dans le domaine presque de la trahison. Mais n'allons pas là tout de suite, parce qu'il a le droit à la présomption d'innocence et manifestement, il s'est retiré. Pourquoi? Parce que demain, il y a une personne qui vient qui est très importante. C'est une visite, probablement la visite la plus importante en sol canadien pour le premier ministre du Canada. Puis deuxièmement, ben lui, il veut tout simplement pas être une distraction, donc il fallait qu'il se tasse, mais il a le droit à la présomption d'innocence.
Mais la présomption d'innocence, évidemment, c'est notre état de droit, puis c'est important, puis il l'a. Oui. Mais il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'enquête. Le gouvernement refuse de déclencher une enquête. Jusqu'à quand va-t-on continuer à dire, ben il est innocent jusqu'à preuve du contraire, puis à essayer de dissiper les doutes quand on ne peut pas réellement faire la lumière sur ce qu'il a pu faire, de ce qu'il n'a pas fait?
Non, mais c'est justement, ça vient s'ajouter comme élément pour justifier, confirmer qu'une enquête est nécessaire. Parce que, tu sais, c'est un autre... C'est vrai qu'on dirait une espèce de roman de Michael Connelly.
Ah, c'est incroyable.
C'est un roman politique, puis là, c'est un autre incident qui
genre,
vient...
Genre, chaque jour, t'as deux pages.
Ouais, complètement. Écoute, le roman s'écrit tout seul, là. Je pourrais dire c'est captivant si c'était pas aussi inquiétant pour notre démocratie. Mais non, moi, je pourrais jamais suggérer et dire qu'un député dans un élu dans cette situation-là devrait se retirer parce que je crois fondamentalement que dans notre démocratie, la présomption d'innocence doit être protégée et malheureusement, elle est trop souvent écartée dans le contexte actuel là, du cancel culture et compagnie. Mais ça vient renforcer le fait qu'il faut qu'il y ait une enquête. C'est plein d'éléments qui s'ajoutent et auxquels ça vient amener de la suspicion, ça vient soulever des questions. Mais à un moment donné, il va falloir aller au bout de tout ça.
Une autre raison pour déclencher, nos
alliés vont se demander qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Il faut penser aussi le présent et là demain.
Ouais. Évidemment, l'image que l'on projette est très importante également. Marie, Steve, merci beaucoup. On se retrouve demain.
À demain.
Yeah, the man.